Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 23 mars. La côte est australienne est toujours sous l'eau. Plus de 15 000 personnes supplémentaires pourraient avoir à quitter leur foyer dans les heures qui viennent pour échapper aux inondations. L'Union européenne impose, elle, des sanctions à plusieurs hauts dignitaires de la junte birmane, mais aussi à 4 officiels chinois. Et puis le Parlement américain examine pour sa part en ce moment le statut de sa capitale, Washington DC, dont les 700 000 habitants ne sont pas représentés ni au Congrès ni au Sénat. Et on commence donc tout de suite avec ces inondations actuellement en cours en Nouvelle-Galles du Sud et aussi d'ailleurs dans le sud du Queensland. 15 000 personnes de plus pourraient être contraintes de quitter leur domicile alors que dans certains endroits, le niveau de l'eau continue de monter et la météo par ailleurs, pour l'instant, reste épouvantable. D'après la première ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, ce sont en particulier les personnes résidant à proximité des rivières Colo et Hawkesbury qui sont concernées. Mais aussi, c'est difficile sur la North Coast, en particulier autour de la ville de Grafton. Écoutez-la.
The south coast of New South Wales is also an area of concern with heavy rainfall expected today and we will be watching that as well. But my strongest message to everybody is please just listen to the advice. If you have been asked to be on alert for evacuation, please get together your precious belongings, make sure you are safe and make sure you're ready to leave at very short notice. And that's really, really important. And I'm just grateful to all the workers, all the volunteers, all our frontline people who have saved lives.
Et puis, comme vous le savez, plus de 18 000 personnes ont déjà été évacuées depuis le début de ce week-end. 3 000 d'entre eux viennent du nord-ouest de Sydney, mais la plupart des autres habitent cette fameuse Mid-North Coast. Pour eux, ces pluies torrentielles sont une véritable catastrophe. Écoutez ces deux témoignages de sinistrés.
I think I've lost everything. I didn't bring my false teeth. I didn't bring nothing with me, only my medicines because they said they'd take me to hospital.
And there wasn't anything we could do. We had all our animals upstairs. We had to move everything we could upstairs. And there was no warning. We couldn't get too much.
Et puis si certains d'entre vous ont été affectés par ces intempéries, sachez que le Conseil australien de l'assurance a déclaré une bonne partie de l'État de Nouvelle-Galles du Sud en état de catastrophe naturelle. Ça signifie que les sinistres seront traités en priorité par les assureurs, qui ont déjà d'ailleurs reçu beaucoup d'appels, plus de 2100 pour l'assureur IAG et plus de 1300 pour Suncorp. Allez, on prend maintenant la direction de Canberra, où le Premier ministre Scott Morrison vient d'annoncer avoir identifié et fait licencier un employé ministériel considéré comme l'auteur d'une nouvelle série de scandales sexuels. La chaîne 10 News a diffusé cette semaine des images et des vidéos dans lesquelles on peut voir cet individu, mais aussi certains de ses collègues qui sont en train de simuler une masturbation tout en étant assis sur le bureau de certaines de leurs collègues féminines. Pour le ministre des Finances, Simon Birmingham, ces révélations sont tout simplement horrifiantes.
I'm disgusted and appalled at what I see alleged in relation to that story. It shows a complete disregard for all that our parliamentary democracy stands for. It also demonstrates an enormous disrespect.
Et Mary Spain, qui était le ministre à l'égalité homme-femme, juge pour sa part ses comportements totalement inacceptables.
The behaviours of perpetrators, which are beyond unacceptable, and will hopefully be dealt with through appropriate legal processes, must stop. And the only way they will stop in this building is if the members and senators of this building make that happen.
International maintenant, en Syrie, dimanche, 6 personnes, parmi lesquelles un enfant de 10 ans, ont été tuées dans le bombardement d'un hôpital à Alep. Une attaque jugée extrêmement préoccupante par le représentant de l'ONU dans la région, Mark Cutt.
Now, that's very worrying because that's the area that has the highest concentration of displaced people. Many of the camps are in that area, about 1 million people in camps around that area. They are highly vulnerable when airstrikes and shelling happen. It's also the area where many of the humanitarian organizations have offices and warehouses. They put their warehouses and offices there, thinking that that was the safest part of Idlib. So when that starts coming under attack, it's extremely worrying.
L'Union européenne vient pour sa part d'annoncer des sanctions visant le chef de la junte birmane, mais également 9 autres hauts gradés du régime. Ils ne pourront donc plus se rendre en Europe et s'ils y détiennent des avoirs, ils seront tout simplement gelés. Un premier pas, mais trop tardif et qui ne va pas aller assez loin, alors que plus de 250 personnes ont été tuées et 2600 autres emprisonnées depuis le début de ce coup d'État. Pas assez loin et trop tardif, c'est donc l'avis de Joëlle Garriaud-Mellam. Elle est sénatrice des Français de l'étranger.
Je suis extrêmement déçue parce qu'il a quand même fallu à l'Union européenne 50 jours pour prendre des décisions qui avaient été déjà prises par les Américains et les Britanniques. Alors certes, il y a un an de plus et ça quand même très important que nous ayons décidé de sanctionner le président de la commission électorale parce qu'il faut bien dénoncer cette espèce de malversation lamentable qu'ils se préparent à faire dans leur intérêt. On ne peut pas manipuler un processus électoral et donc il était très important de sanctionner aussi ce président de la commission électorale. Il fallait que ces sanctions englobent toute la famille, y compris les enfants. Parce que ça, c'est très important en Birmanie. Et les enfants de la junte militaire étudient à Singapour ou aux États-Unis. Et là, je crois que ça aurait eu une portée un peu plus importante. Mais c'est déjà un premier pas, il fallait le faire, mais malheureusement, nous sommes très en retard. Ces sanctions, il fallait les prendre dès le début.
Et les sanctions, l'UE vient également d'en imposer à 4 officiels chinois. Ils opèrent dans la région du Xinjiang, à l'ouest de la Chine, et sont accusés de participer à la répression de la minorité ouïghour. La Chine a répliqué en imposant également des sanctions visant une dizaine d'Européens, des fonctionnaires, mais également quelques élus du Parlement. Pour Josep Borrell, en tout cas, le haut représentant de l'Union européenne, il s'agit pour Bruxelles de défendre les droits de l'homme.
We are made aware during the meeting that China has retaliated to those sanctions and rather than change its policies and address our legitimate concerns, China has again turned a blind eye and these measures are regrettable and unacceptable. There will be no change in the European Union determination to defend human rights and to respond to serious violations and abuses, as I said, irrespective of where they are committed.
Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les législateurs se penchent sur la capitale, Washington DC, et son statut très particulier. Les 700 000 habitants de la ville peuvent depuis quelque temps voter pour l'élection présidentielle. En revanche, ils ne sont pas représentés ni au Sénat ni au Congrès, car eh bien, le district de Columbia, où se trouve la capitale, est un district fédéral et non pas un État. C'est pourquoi, pour l'instant, ces personnes ne sont pas représentées politiquement. Alors, c'est justement ce que souhaiteraient changer les démocrates qui viennent d'ouvrir le débat. Mais les élus républicains, eux, ils sont très farouchement opposés. Ludivine Gulli, une spécialiste des États-Unis, a expliqué pourquoi au micro de Radio France Internationale.
C'est une question très simple et c'est ce qui explique que les Washingtoniens n'aient pas réussi jusqu'à présent à obtenir le droit de vote. C'est que la ville de Washington, depuis qu'elle vote aux élections présidentielles en 1964, vote très largement démocrate. Donc, si le Congrès, par un vote, attribue à Washington un député et 2 sénateurs, ce serait un député démocrate et 2 sénateurs démocrates. Et comme les majorités sont extrêmement serrées actuellement, les républicains n'en veulent absolument pas. Et le problème, c'est qu'au Sénat, selon les règles de procédure actuelles, la minorité peut bloquer par un système d'obstruction parlementaire qui s'appelle le filibustering. Cette obstruction ne peut être renversée actuellement que par une majorité qualifiée de 60 voix, dont les démocrates ne disposent pas. Et donc, il faudrait que les démocrates décident de changer l'usage du Congrès pour interdire le blocage par la minorité Et le problème, c'est que s'ils font ça, ils changent une tradition très forte de la vie politique américaine, et donc ce n'est pas une décision qu'ils prendront à la légère.
Hier lundi, c'était un triste anniversaire en Belgique, puisque c'était il y a tout juste 5 ans qu'ont eu lieu les attentats de Bruxelles. Pour l'occasion, le roi et la reine ont rendu hommage hier aux 32 victimes de ces attaques qui se sont déroulées dans le métro de Bruxelles, mais aussi à l'aéroport. C'est justement là, à l'aéroport, qu'ont débuté les commémorations hier. La famille royale était accompagnée du Premier ministre Alexandre De Croo.
I would like to conclude with the words of the American writer Irving Washington. And I quote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love."
L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, vient de publier un rapport à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui nous appelle tous à adopter une gestion beaucoup plus prudente et surtout beaucoup plus durable de cette ressource dont nous avons tous besoin. C'est, d'après l'ONU, absolument essentiel si nous souhaitons atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui ont été fixés ces dernières années.
Il est essentiel de reconnaître, de mesurer et d'exprimer la valeur de l'eau et d'en tenir compte dans les prises de décision. Ainsi débute le rapport des Nations Unies, car contrôler la manière dont est établie la valeur de l'eau, c'est contrôler son utilisation. Une gouvernance équitable des ressources repose essentiellement sur les valeurs que l'on attribue à l'eau, suivant une variété de points de vue, allant de l'usage domestique aux croyances coutumières et religieuses, ou encore à la valeur du maintien des cours d'eau pour préserver la biodiversité et aux droits humains fondamentaux. Or, l'évaluation de la valeur de l'eau, qui est utilisée pour orienter les décisions politiques et les investissements financiers, est avant tout comptable et économique. Mais dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et d'inégalité d'accès, même s'il faut s'attendre à ce que des dimensions si diverses de la valeur de l'eau soient compliquées à évaluer, il serait néanmoins nécessaire de trouver des compromis afin de les intégrer dans les processus de décision.
Et pour finir, on fait un point sur la météo du jour. Toujours, vous le savez, de très fortes précipitations sur une bonne partie de la côte est australienne ce mardi, en particulier à Sydney, à Wollongong, à Newcastle, bref, un peu partout en Nouvelle-Galles du Sud. Attendez-vous dans cette région à un véritable déluge. Côté température, en revanche, on sera dans cette partie du pays autour de 21 degrés. 21 degrés aussi à Melbourne, où on attend également des averses dans la journée. 18 degrés à Canberra, où le temps là aussi va être très humide aujourd'hui. Quelques degrés de plus en revanche à Brisbane avec 24 degrés, 25 degrés à Adélaïde et 26 à Perth où le temps dans ces deux villes aujourd'hui est nuageux. En revanche, on a un peu de soleil à Cairns où il fait 33 degrés et puis 32 degrés à Darwin où le temps sera aujourd'hui beaucoup plus orageux. Pour ce qui est de la Nouvelle-Galles du Sud, je précise par ailleurs qu'on s'attend à une nette éclaircie demain, on pourrait même avoir un petit peu de soleil.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.